Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes qui sentent un peu le soufre et le secret.
Ah oui?
Des extraits du grand et du petit Albert, avec en plus la préface très éclairante d'Émile Sentier. Une œuvre assez mythique et controversée aussi.
Effectivement, c'est un assemblage vraiment fascinant de savoir ancien. Ça mélange secrets de la nature, recettes magiques, et puis des bribes de science, du folklore. Notre but, là, c'est d'essayer d'en extraire l'essence, quoi. De comprendre un peu la mentalité de l'époque, le contexte de ses écrits.
C'est ça. Et la préface de Sentier, elle nous met direct dans l'ambiance. Hein. Ces fameux mauvais livres qui circulaient un peu sous le manteau.
Oui.
Il cite Bergson d'ailleurs, « Il subsiste quelques magies dans la religion et surtout quelques religions dans la magie ». Ça pose la question de la frontière, non, entre tout ça?
Tout à fait. C'est une bonne citation pour commencer. Sentier, il décrit bien ce monde rural où la croyance imprégnait vraiment tout. Le curé, par exemple, c'était pas juste un guide spirituel.
Ah non?
Bah non, on lui prêtait des pouvoirs. Il y a des histoires comme quoi il pouvait stopper des convois ennemis juste par la prière.
Incroyable.
Et les bonnes femmes, elles avaient les secrets des plantes, faisaient des passes magnétiques, parfois une sorte de magnétisme avant l'heure, quoi.
On sent bien cette tension alors entre le savoir officiel, celui de l'Église, des savants, et puis ces connaissances parallèles, un peu plus occultes.
C'est ça.
Mais comment les gens de l'époque y faisaient la part des choses entre ce qui était de l'observation, peut-être juste, et la pure superstition dans ces livres?
Eh bien, c'est toute la question. Et c'est pas si simple. Hein. Ces textes, ils témoignent de ce savoir parallèle. Souvent, ils étaient transmis par les colporteurs, tu sais, ces vendeurs itinérants.
Oui, oui.
Eux, ils diffusaient les nouvelles, mais aussi ces livres un peu interdits. Ça accentuait leur côté marginal. Et dedans, on trouvait de tout. Des observations empiriques, parfois correctes, du folklore, des restes de paganisme, un peu de science ancienne. Un sacré mélange.
D'accord.
Du coup, le livre lui-même, il était vu comme ambivalent. Dangereux, oui, mais aussi comme une source de pouvoir pour celui qui savait s'en servir.
Et on a des exemples concrets de ça, comme le barrage contre le feu. Un curé qui trace des croix avec une formule pour stopper un incendie, c'est fou.
Oui.
Ou alors ce rituel du petit Albert pour avoir de la chance au jeu. Ça implique une anguille morte de soif, tuée par des chiens, sa peau mise dans du fumier.
Ah oui, c'est très imagé.
C'est presque terre à terre dans la bizarrerie, tu vois. Ça montre un peu ce besoin de contrôler un monde qui paraissait sans doute très incertain.
Exactement. Et cette quête de contrôle, on la voit dans la structure même du Grand Albert. C'est pas juste une liste de recettes, il y a des grands thèmes.
Ah oui, hein. Lesquels par exemple?
D'abord, il y a une tentative de comprendre la vie, la génération, l'influence supposée des planètes sur le fœtus, tout ça.
D'accord, un côté un peu scientifique pour l'époque?
Voilà. Ensuite, une sorte de catalogue du monde naturel, mais vu comme une boîte à outils magique, les vertus cachées des plantes et des pierres, des animaux.
Et après ça?
Après viennent les secrets merveilleux et naturels. Alors là, c'est un mélange étonnant. T'as des recettes techniques, presque artisanales, genre travailler les métaux, et juste à côté, des pratiques plus organiques, on va dire. Utilisation de fientes, de salive, et puis la physionomie aussi. L'art de lire le caractère sur le visage.
Ah, d'accord.
Très populaire à une époque.
D'accord, c'est vraiment varié.
Mais au-delà de ces curiosités, il y avait des textes carrément subversifs.
Ah bon?
Oui, le fameux traité des secrets des femmes. Là, on parle de conception, de grossesse, de contraception, et même d'avortement.
Ah oui, carrément. Ça devait être explosif pour l'époque.
Exactement. Des sujets ultra tabous, tellement que ça a valu au grand Albert d'être mis à l'index par l'Église. Interdit officiellement, quoi.
Ça explique la réputation sulfureuse, en partie. Mais du coup, cette variété de contenu, ça pose la question de l'auteur. Qui était vraiment Albert le Grand?
Bah voilà, d'un côté, t'as l'érudit historique Albert de Polstett, un dominicain du XIIIe siècle, prof de Thomas d'Aquin, très intéressé par les sciences naturelles.
Un vrai savant pour son temps.
Oui. Et de l'autre, bah, la légende. Celle qui en a fait un magicien, un créateur d'automates avec des pouvoirs surnaturels. La préface de Sentier, elle souligne bien cette confusion entre l'homme et le mythe. On lui a attribué ses textes bien après sa mort, en fait, pour profiter de sa réputation.
D'accord. Et le petit Albert, alors, dans cette histoire? C'est juste une suite?
On le présente souvent comme ça, oui. Peut-être plus centré sur les recettes pratiques, la magie du quotidien. Là où le grand Albert brassait plus large, avec de la philosophie naturelle, des spéculations.
Plus accessible, peut-être.
Possiblement. Mais l'idée du secret, du savoir caché mais utilisable, elle reste centrale dans les deux.
En tout cas, ces extraits, Il montre bien que ces livres, c'est beaucoup plus que des recueils de superstitions.
Ah oui, largement. C'est vraiment le miroir d'une vision du monde particulière. Une époque où la science naissante, la magie ancestrale, les observations fines et les croyances profondes, tout ça cohabitait.
Ça s'influençait mutuellement.
Tout à fait. Ça témoigne d'un effort constant, parfois un peu maladroit, c'est vrai, mais constant, pour comprendre le réel et pour agir dessus.
Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Cette popularité de ces grimoires qui traversent les siècles, malgré les interdits, malgré la rationalité qui gagne du terrain, qu'est-ce que ça révèle là-dedans? Peut-être une fascination qui reste pour le pouvoir caché, l'idée qu'il y a des savoirs en marge, des réponses ou des leviers, au-delà du visible, de l'admis.
C'est une excellente question pour finir. Ça laisse à réfléchir, en effet.
Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage passionnant.
Merci à vous.
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.